Bonsoir à tous. Donc ce soir, nous allons lire dans 2 Pierre, chapitre 3, les versets 1 à 14. Donc 2 Pierre 3, les versets 1 à 14, et c'est à la page 1390 dans les Bibles qui sont devant vous. Bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs, pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront, et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes ? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix.
Plus tôt dans cette lettre, l'apôtre Pierre a annoncé qu'il allait bientôt mourir. Et s'il écrit cette lettre, la deuxième, c'est pour avertir des chrétiens qui pourraient être égarés par de faux enseignements. Difficile de déterminer avec précision ces faux enseignements, mais une chose que ceux qui les propagent considèrent comme une fable, une chose qui les fait sourire, ricaner, c'est le retour du Seigneur. Vous l'entendez au verset 4. Pierre retranscrit « Où est la promesse de son retour ? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. » Et les lecteurs de Pierre, en semble-t-il, étaient bousculés par ces affirmations. Si eux, quelques dizaines d'années après l'ascension de Jésus, ont été bousculés par cela, que faut-il penser, nous qui vivons 20 siècles après ces événements ? Est-ce qu'on ne peut pas concevoir une certaine moquerie de la part de nos contemporains? Comment est-ce que nos contemporains réagiraient ou réagissent à l'affirmation que Jésus va revenir? À mon avis, la réaction s'illustre bien par une chanson qui porte ce titre, « Jésus revient ». Elle est chantée dans un film de 88, qui le connaissent de toute évidence. La vie est un long fleuve tranquille et un prêtre, avec une chorale, entonne les paroles suivantes. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, indique-nous le chemin, toi qui le connais si bien. Et clairement, on est dans la parodie. On est dans la fable. Comment est-ce qu'on réagit face à cette moquerie? Est-ce qu'elle nous affecte, plus ou moins consciemment? Est-ce qu'elle rend cette doctrine taboue? On n'en parle pas. Et indépendamment de la moquerie, est-ce qu'on a relégué cette doctrine aux oubliettes? Le peuple que Dieu a sauvé et rassemblé est un peuple qui vit dans l'attente du jour du Seigneur. Et malgré sa mort prochaine, Pierre ne cesse de le rappeler, parce qu'il est convaincu que cette doctrine, si elle est comprise, change notre manière de voir la vie, change notre manière de vivre. On pourrait tenter de résumer ce chapitre en deux mots, savoir attendre, deux mots qu'on peut développer en deux questions. Que doit-on savoir, dans les versets 1 à 10 ? Comment doit-on attendre, versets 11 à 14 ? L'emphase dans les 10 premiers versets est mise sur ce que les chrétiens doivent savoir, se souvenir, se rappeler, ne pas oublier, versets 1, 2, 3, 8. Il est aussi question de ce que les faux docteurs ignorent, oublient, pensent à tort, versets 5, 6, 9. Que doit-on savoir ? Dans les versets 11 à 14, l'emphase est mise sur la manière d'attendre. Le terme revient à trois reprises. Versets 12, 13, 14. Comment doit-on attendre ? Avec l'affirmation du retour de Jésus, on entend parfois un scepticisme ambiant qui peut prendre la forme suivante. Vous les chrétiens, ça vous arrange de croire au retour de Jésus, n'est-ce pas ? Ça vous arrange. Ça vous arrange de croire à une vie après la mort. Ça vous arrange de croire que vous allez retrouver vos proches décédés plus tôt. Ça vous arrange de croire à une justice au-delà de la mort. Comment répondre à cette objection ? Ça vous arrange. On pourrait commencer par répondre que l'inverse est vrai aussi. Aldous Huxley, auteur du Meilleur des mondes, l'affirmait avec honnêteté. Et je lis une citation. J'avais un motif pour ne pas vouloir que le monde ait un sens. En conséquence, j'ai présupposé qu'il n'en avait pas. Et j'ai été capable, sans grande difficulté, à trouver des raisons pour cette présupposition. Pour moi-même, la philosophie qui consiste à ne pas voir de sens à l'existence était essentiellement un instrument de libération sexuelle et politique. Est-ce que ça nous arrange de croire au retour de Jésus ? On peut dire l'inverse. Est-ce que ça arrange de croire qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y aura pas de compte à rendre, pas de redevabilité au-delà de la mort ? C'est précisément le constat que fait Pierre dans le chapitre 2 et qu'il y fait référence ici lorsqu'il est question des désirs. Ne pas croire au retour de Jésus, légitime pour les faux docteurs, toutes sortes de dérives, de débordements, en particulier sur le plan sexuel. L'argument qui consiste à dire que ça nous arrange de croire au retour de Jésus peut être inversé. Et en fait, ce n'est pas ça qui détermine si une doctrine ou cette doctrine est vraie ou fausse. Alors que doit-on savoir dans les versets 1 à 10 ? Comment est-ce que l'argument peut être avancé ? Sur quoi est-il fondé ? Eh, les chrétiens, vous l'attendez encore ? Il suffit de quelques mots, un petit sourire, une petite blague, et on a l'impression qu'on est face à un argument implacable, le tour est joué. Mais sur quoi se fonde l'affirmation que Jésus ne reviendra pas ? L'argument repose sur l'expérience. Tout reste dans le même état qu'au début de la création. Selon eux, le monde a eu un début, mais il continuera à tourner. La terre continue de tourner autour du soleil, les saisons s'enchaînent, et ça continuera comme ça. L'argument est basé sur l'expérience. Jésus n'est jamais revenu, il ne reviendra pas. Est-ce que l'expérience est un argument si fort, si fiable, si solide ? Pour Pierre, l'expérience n'est pas fiable. Il faut qu'un fondement plus solide, et il va faire référence aux Écritures à plusieurs endroits. Dans ce texte, verset 2, il invite ses lecteurs à se souvenir des paroles des prophètes, mais aussi des apôtres de Jésus. Manière de parler de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et pour Pierre, il y a une formidable cohérence dans ses écrits, écrits rédigés à plusieurs siècles d'écart. Et même avec une vision sceptique des Écritures, est-ce qu'on effacera des paroles déjà rédigées au temps où il écrit ? L'expression « les derniers jours » se retrouve ailleurs. C'est une manière de parler de cette période dans laquelle nous nous trouvons, qui commence avec la mort et la résurrection de Jésus. Et Pierre rappelle que les moqueurs ont déjà été annoncés. sont déjà mentionnés plus tôt dans la Bible. Plus solide que l'expérience, Pierre fait appel à un fondement solide, celui des Écritures. Et il poursuit avec trois arguments dans les versets 5 à 10. Quel est le premier argument ? Versets 5 et 6. « Ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. » Le monde a toujours été pareil ? C'est ignorer deux moments charnières dans la révélation biblique, la création et le déluge. Alors en entendant parler de création, de déluge, l'être humain du 21e siècle, là encore, pourrait sourire. Mais même avec une vision sceptique des Écritures, qui dira que l'univers, la terre n'ont jamais eu de commencement, qu'ils ont toujours existé ? Et quant au déluge, s'il est parfois présenté comme un mythe, comment expliquer sa trace dans des civilisations si différentes et si éloignées les unes des autres ? Babyloniens, Grecs, Romains, Mèdes, Indiens, Mayas, Scandinaves, Lituaniens, Amérindiens, Chinois, Aborigènes. En fait, nos contemporains n'ont pas de mal à penser qu'il pourrait y avoir une fin du monde. Mais ce sera généralement vu avec une guerre nucléaire ou une catastrophe climatique. Vers le début de la guerre froide, des scientifiques américains ont inventé une horloge conceptuelle, l'horloge de l'apocalypse. Cette horloge a pour but de décrire l'imminence de la fin du monde par une guerre atomique. Minuit représente la fin et les minutes qui précèdent l'ampleur du danger, la menace. Sur cette horloge conceptuelle, quelle heure est-il aujourd'hui ? Il est 23h58. Ça, vous êtes informé. Donc on n'est pas loin selon cette horloge-là. La menace, elle est réelle, suffisamment réelle en tout cas pour qu'on s'en inquiète. On n'a pas de peine à imaginer une fin du monde. Mais généralement, on estime que la décision revient à tel ou tel président qui pourrait appuyer sur le bouton ou décider d'utiliser la bombe atomique. Pour Pierre, le pouvoir de la décision, elle ne se trouve pas dans la parole d'un homme, mais celle de Dieu. C'est par sa parole que le monde est venu à l'existence. C'est par sa parole que le déluge est advenu. C'est par sa parole que ce monde est maintenu dans son existence. Verset 7. Préservé en vue d'un jugement à venir. C'est Dieu qui aura le dernier mot dans l'histoire, comme il a eu le premier mot dans l'histoire et au déluge. Premier argument porte sur l'histoire et la puissance de la parole de Dieu. Le deuxième porte sur la relation de Dieu au temps. Où est la promesse de sa venue ? La question qu'il soulève. Pourquoi ce délai ? 20 siècles plus tard ? On attend toujours. Comment comprendre ce délai ? Une fois encore, Pierre cite les Écritures, le psaume 90. Aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Et vous entendez la différence de perception ? Aux yeux du Seigneur. C'est quand Noël ? Le 10 novembre dernier, c'est la question que mes filles ont posée. C'est quand Noël ? Elles avaient déjà reçu un calendrier de l'Avent, mais vous savez quel est le problème avec le calendrier de l'Avent. Il commence seulement le 1er décembre, on était en novembre. Et donc quand je leur ai dit qu'il restait encore 45 jours jusqu'à Noël, ça paraissait tout simplement interminable. On a l'habitude de parler en termes de demain, après-demain, mais 45 jours! Et qu'en est-il des adultes ? Quelle est leur représentation du temps ? Ben, il suffit d'écouter les gens parler. C'est tout différent. Qu'est-ce que le temps file ? Qu'est-ce que c'est passé vite ? J'ai l'impression que c'était hier. Et entre un enfant et un adulte, il y a déjà une différence de perception. Qu'en est-il entre l'être humain et le Dieu éternel ? Qu'en est-il ? À notre échelle, l'attente, elle semble interminable. Mais c'est précisément notre échelle. À la lumière de l'éternité, la Bible décrit la vie humaine comment ? Comme une herbe, comme une fleur, comme une brume. Elle se lève et disparaît. 80, 90 années, ça paraît déjà beaucoup. Mais aux yeux de l'éternité, c'est insignifiant. Au-delà de la perception, Pierre veut nous donner la raison de cette attente. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme un arbitre qui s'entête à ne pas vouloir siffler la fin d'un match, ou d'un musicien qui ne veut pas arrêter son concert, il veut poursuivre, qui s'entête. C'est une mauvaise interprétation. Il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il fait preuve de patience envers vous. Les lecteurs doivent s'inclure dans cette repentance, dans cette patience. J'ai mentionné tout à l'heure l'horloge de l'Apocalypse, et il y a justement, pour les 30 ans de la chute du mur de Berlin, un documentaire qui est sorti, Apocalypse, la guerre des mondes. Il retrace ces trois dernières décennies de guerre froide. Et dans ce résumé, on est frappé par la récurrence des guerres et des génocides. Et à chaque fois, on pourrait se dire que le moment aurait été opportun pour l'intervention du Seigneur dans l'histoire. Et on interprète sa non-intervention comme de la passivité ou de l'impuissance. Pierre nous donne la juste interprétation, sa patience. Pour prendre l'exemple du génocide cambodgien, il aurait suffi que Dieu intervienne à la fin de ce génocide-là et son jugement m'aurait directement concerné. Et pour chacun d'entre nous dans cette salle, il aurait suffi que Dieu intervienne dans l'histoire une année avant votre conversion. Et vous auriez été directement concerné par son jugement. Sa patience est notre salut. Et l'ironie de la situation, c'est que les faux enseignants se moquent de la patience de Dieu alors qu'elle pourrait les sauver. L'ironie, c'est que le temps que Dieu leur donne est utilisé comme un argument contre lui. Mais un jour, ils devront répondre devant lui. On a parlé de la perception de Dieu, mais si on revient à notre perception, un jour a de la valeur. Il suffit d'un jour de prise de conscience. Il suffit d'un jour. L'auteur de la lettre aux Hébreux et le psalmiste avant lui le répètent. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il suffit d'un jour pour reconnaître notre état de rébellion vis-à-vis de Dieu, notre hostilité vis-à-vis de Dieu, notre désir de vivre sans lui, sans référence à lui. Il suffit d'un jour de prise de conscience et de repentance et toute notre vie peut basculer. Le premier argument concerne l'histoire, la puissance de la parole de Dieu. Le deuxième, la perception de Dieu et de cette attente. Le troisième argument concerne notre perception de sa venue. La soudaineté du jour du Seigneur. Verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments brasés se désagrégeront, et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. » On n'est pas surpris une fois encore de voir que Pierre fait référence aux Écritures, la parole de Jésus, celle de Paul peut-être aussi. Pierre se souvient de cette image que Jésus a utilisée pour parler de son retour. Le voleur qui vient dans la nuit. Comment est-ce qu'un voleur intervient? Est-ce qu'il va venir tout à l'heure chez vous? Il attend que vous rentrez de la RDS et il sonne gentiment à la porte une fois que vous êtes dedans. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger, je suis voleur et je viens vous cambrioler. Il va pas attendre votre retour de la RDS pour le faire. Il viendra justement au moment où on s'y attend pas. Et bien selon cette image ici, il y a cette surprise-là, ce choc-là, cette soudaineté-là. Il est possible que Jésus utilise aussi cette image pour refléter l'hostilité que nous pourrions avoir vis-à-vis de lui, de son intervention dans l'histoire. Dans tous les cas, le moment de son retour ne se calcule pas, il ne se planifie pas. Et la description qui suit témoigne du choc, de la surprise de cette intervention. Pierre utilise une expression de l'Ancien Testament pour parler de cette intervention décisive dans l'histoire, le jour du Seigneur, le jour du Seigneur. Comment dire le choc de cette intervention? Écoutez-le. C'est un fracas, des éléments embrasés, désagrégés, une terre brûlée. On peut penser aux moments les plus déstabilisants, et peut-être peu d'entre nous les ont connus. Un tremblement de terre puissant, un tsunami, une éruption volcanique, et on serait déjà dans la panique. Ce qui est présenté ici est encore plus puissant. Ce que les commentateurs soulignent ici, c'est que c'est non seulement la soudaineté qui est mise en avant, mais aussi l'effet de la venue du Seigneur. Tout sera mis à nu devant lui, rien n'échappera à son regard. L'image du feu en témoigne. Tout ce qui doit être jugé sera jugé. Et qu'est-ce qui nous préservera de ce jugement? Soit notre jugement est déjà retombé sur Jésus, soit ce jugement retombera sur nous. Soit nous serons couverts de la justice de Jésus, comme on l'a chanté tout à l'heure. Soit nous essayerons de nous couvrir avec notre propre justice, mais ça ne tiendra pas. Seule celle de Jésus tiendra. On arrive à la dernière question, deuxième question. Comment doit-on attendre? Comment doit-on attendre? À quoi ça sert de mettre des anniversaires dans un agenda électronique? C'est la question que je me pose parfois. Pourquoi est-ce que je mets, et en particulier quand je mets une alarme pour un anniversaire et j'ai un message de rappel qui s'affiche, pourquoi est-ce que je le mets? Normalement, je devrais le mettre parce que ça va me permettre d'écrire un message, de passer un coup de fil, d'écrire une carte. Mais si je reçois ce message et que je ne fais rien, pourquoi est-ce que j'ai mis en place cette alerte? Je ne comprends pas. Vous pouvez peut-être m'expliquer pourquoi je fais ça. Mais pour Pierre, c'est pareil. La doctrine du retour de Jésus doit déboucher sur une action. Pierre a méticuleusement travaillé son texte qui a la forme d'un chiasme. Il y a une symétrie et on pourrait le voir sur l'ensemble du chapitre 3, mais simplement avec les versets 8 à 14, on va trouver le cœur. Le bien-aimé du verset 8 est symétrique au bien-aimé du verset 14. La promesse du verset 9 est symétrique à la promesse du verset 13. Les éléments embrasés du verset 10 se retrouvent au verset 12. Pareil pour se désagréger, verset 10, verset 12. Alors quel est le cœur du chiasme? Le verset 11. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? Ce que l'on sait au sujet du retour du Seigneur doit informer notre manière de voir la vie, de la vivre. Pour Pierre, c'est une évidence. Cette doctrine, elle change notre manière de voir. Le film remonte à quelques années, mais il revient sur des faits historiques. Alors là, j'imagine que c'est de la fiction, mais dans le film Titanic, le bateau a déjà heurté l'iceberg. Et le concepteur du bateau a fait le bilan de la situation. Et il affirme que le bateau va couler. Quelqu'un rétorque, mais il ne peut pas couler. Et il répond, il va couler. C'est une certitude mathématique. C'est ça qu'il dit. Et quelques instants plus tard, on retrouve ce même concepteur du bateau sur le pont. Il observe ce qui est en train de se passer, il ne comprend pas pourquoi les passagers ne sont pas encore en train de se préparer à rentrer dans les canots de sauvetage. Il observe les gens qui sont en train de danser, les musiciens qui jouent, les personnes qui parlent de prendre une tasse de thé. Et ce qu'il sait change complètement sa manière de voir les choses. Ça change complètement la manière de vivre et de voir ce qui l'entoure. Et de la même façon, la doctrine du retour de Jésus devrait changer notre manière de voir ceux qui nous entourent, notre manière de vivre. Dans la foulée du verset 11, Pierre dévoile à quoi devrait ressembler cette conduite, ce zèle, cette piété. On trouve trois références à l'attente. À quoi correspond-elle? Eh bien, d'abord, au verset 12, on est face à une dualité, un paradoxe. Il est dit d'attendre et d'hâter la venue du Seigneur. D'un côté, c'est Dieu qui a défini, lui, le Dieu éternel, de toute éternité, qui a défini le moment de son intervention. Il faut donc l'attendre. Mais d'un autre côté, nous sommes invités à le hâter. Nous participons à sa venue. Comment comprendre la deuxième expression? Un peu plus tôt, on a dit que la raison pour laquelle Dieu n'intervient pas, c'est qu'il fait preuve de patience, de sorte que nous venions à la repentance. Sans vouloir être dogmatique, il y a probablement un lien à faire avec le terme « hâter ». D'une part, pour nous-mêmes, plutôt que d'estimer que tout ce que nous faisons est convenable, que nous n'avons rien à nous reprocher, on devrait chacun d'entre nous, si nous sommes croyants, vivre des repentances régulières, sincères. D'autre part, on devrait participer à cette prise de conscience collective de ceux qui nous entourent. Si Dieu veut faire preuve de patience de sorte que le plus grand nombre soit sauvé, on devrait participer, que ce soit par la prière, que ce soit par le fait de témoigner, à ce que le plus grand nombre en entende parler. Ce serait une manière de hâter son retour. Au verset 13, on découvre une autre facette de cette attente. Attendre, c'est porter notre regard sur la promesse d'une nouvelle terre où la justice habitera. Une remarque sur cette nouvelle terre, il s'agit d'une citation d'Ésaïe 65. Et dans le contexte, on retrouve pas mal d'éléments connus de la terre présente. Et avec certains commentateurs, je vous suggère que comme le déluge a couvert et en quelque sorte purifié cette terre sans l'anéantir, le feu dont il est question ici va purifier la terre, mais ce sera bel et bien la terre. Une terre renouvelée de tout ce qui la corrompt. Maintenant, comment vivre cette anticipation? Ça remonte à quelques années, mais j'ai entendu une expression que je trouve belle et utile. Pensez à vos meilleurs moments. Et lorsque vous vivez ce que je vis, ces meilleurs moments, les moments les plus joyeux, les plus beaux, qu'est-ce qu'on va se dire? Et si on se disait, le meilleur est à venir. Dans ces moments-là, le meilleur est à venir. Quant aux moments les plus sombres, les plus difficiles à vivre, qu'il nous est donné de vivre, qu'est-ce qu'on va se dire dans ces moments-là? Et si on se disait, ce ne sera plus. Parce que Dieu a fait la promesse d'une nouvelle terre où la justice habitera. Le meilleur est à venir. Où ce ne sera plus. Qu'en est-il de la troisième référence à l'attente, verset 14? En entendant parler d'attente, on pourrait avoir la représentation de quelqu'un de passif, de centré sur lui-même, préoccupé par sa situation. Et on est frappé par ce que dit Pierre ici. Faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tâche et irréprochable dans la paix, loin de nous donner une vie passive. Et centré sur nous-mêmes, ce retour, cette doctrine du retour de Jésus mène à des efforts. Et le regard qui nous intéresse n'est pas le nôtre, centré sur nous-mêmes, mais le sien, un désir de lui plaire à lui, de changer dans ce qu'il y a besoin de changer. Pour conclure, on entend parfois cette expression, un peu comme un leitmotiv, « Vis cette journée » comme si c'était la dernière. Il y a même une chanson qui a été composée sur cette affirmation. Alors c'est vrai, ça paraît un peu cliché, un peu artificiel. Mais à quoi ressemblerait le dernier jour d'un chrétien? Avec ces versets en tête, il ressemble à un homme ou une femme qui vit de manière à plaire à Dieu. Il ressemble à un jour de repentance, de prise de conscience de son péché, besoin de réconciliation, de pardon accordé. Il ressemble à un homme, une femme, consciente de l'urgence et qui, par amour, prie pour ceux qui l'entourent, parle de Jésus. Il ressemble à l'anticipation d'une nouvelle terre où la justice habitera. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, en écoutant Pierre, on est conscient que cette affirmation, cette doctrine du retour de Jésus est souvent en arrière-plan de nos pensées. Et nous te prions, nous implorons ta grâce, de sorte que tu nous accordes le privilège, la joie d'être conscients de ce retour de Jésus. De sorte que nous puissions vivre différemment. Pierre en était convaincu. Nous avons besoin d'en être convaincus. De sorte que cette attente témoigne d'une piété, d'un zèle, d'un attachement, d'un désir de faire connaître Jésus autour de nous. Et là encore, nous avons besoin de ta grâce pour le vivre. Au nom de Jésus. Amen.